Le passage sur lequel je vous propose de nous arrêter ce matin se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Et nous allons lire les 11 premiers versets. Est-ce que quelqu'un l'a sous les yeux et pourrait le lire, ou la moitié? Alors, voilà. La difficulté, c'est que ce n'est plus enregistré si quelqu'un le lit dans la salle. Ah là là. Bon, allez, je le lis. Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Je suis le vrai plant de vigne, et mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez été déjà purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi. Et qu'ainsi votre joie soit complète. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Quelle affirmation percutante de la part de Jésus. Cela semble, à l'évidence, contraire à tout raisonnement logique et raisonnable. Jésus ne verrait-il qu'une partie de la question ? Aurait-il une vue partielle? Ou serait-il présomptueux au point qu'il affirmerait que rien ne se fait en dehors de lui? Et pour nous qui croyons en lui, cette affirmation anéantit-elle notre responsabilité et notre action? Je crois que la réponse à cette affirmation de Jésus ne coule pas de source, mais elle est trop affirmative pour être balayée d'un revers de raisonnement. D'abord, j'aimerais m'arrêter sur ce qui nous paraît évident, l'action humaine est pourtant remarquable, et il est évident que, sans le Seigneur, de grandes réalisations ont été accomplies. Mais il n'y a qu'à considérer, je prends un exemple, la fabrication d'un ordinateur ou d'un téléviseur, ou même des bâtiments comme les cathédrales ou le gratte-ciel de Dubaï ou d'ailleurs, toujours plus haut, pour voir que ce que l'être humain peut faire, c'est par lui-même, sans Dieu. Quand le robot Philea a atterri sur la comète Tchoury, après 10 ans de vol, et 6,5 milliards de kilomètres parcourus, quel exploit humain. est plus près de nous. Si nos salades poussent dans notre jardin, c'est bien parce que nous les avons plantées. C'est l'histoire de ce jardinier à qui le pasteur disait « Magnifique votre jardin, le Seigneur est avec vous ». Et lui de répondre « Oui, mais vous auriez vu ce coin avant quand c'était le Seigneur seul qui s'en occupait ». Beaucoup de personnes réussissent dans les affaires sans Jésus-Christ. Et des chrétiens, par contre, font faillite. On peut sans problème se passer de lui pour s'enrichir, sans prière. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pouvait se glorifier de ce qu'il avait fait sans l'aide de Dieu. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Daniel chapitre 4. Il n'exagérait pas. Chaque brique, paraît-il, portait le sceau du roi. Beaucoup de personnes, oui, sont arrivées où elles sont par la seule force de leur poignet. On peut remarquer quand même que ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant est lié au matériel, aux richesses. Et quand Jésus parle de la réussite de l'homme insensé dans l'évangile de Luc chapitre 12, c'est bien en s'appuyant sur lui-même qu'il a réussi. Et la conclusion rejoint ce que Jésus dit ailleurs, « Si un homme parvient à posséder le monde entier », c'est possible donc, hein? À quoi cela lui sert-il s'il perd la vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Sans parler, à côté de la fragilité de la vie, de la fragilité de ses possessions matérielles, ce que l'être humain fait est malgré tout bien précaire et bien fragile et n'apporte en fait rien de ce qui est essentiel à sa vie. En considérant la grandeur des personnages illustres qui ont fait l'histoire et en voyant leur chute brutale, la ruine des empires, on ne peut que faire un triste constat, comme Dieu le disait par le prophète Jérémie, ils ont travaillé pour le néant. Notre société, en fait, n'a que faire de Dieu et de son avis. Mais malgré tout, de plus en plus de personnes pensent que nous avons atteint, même au niveau mondial, un point de non-retour vers une catastrophe inévitable. Malgré le niveau technologique jamais atteint, mais est-ce que le réflexe alors sera de se tourner vers Dieu? On recherchera, semble-t-il, eh bien, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans la seconde épître aux Thessaloniciens, plutôt un Superman qui viendra sauver l'humanité. Mais cela fait longtemps qu'on nous conditionne pour penser, entre guillemets, hein, que le salut ne peut venir que de l'homme. L'automobile est vraiment une réussite humaine. Mais quand on sait qu'il y a, et ça c'est l'autre aspect du sujet, quand on sait qu'en Europe il y a 28 000 morts par an, 250 000 blessés graves par an, alors peut-être qu'on relativise les capacités humaines à gérer les découvertes extraordinaires qu'on peut faire. Internet est un outil qui montre que l'être humain est vraiment génial. Mais on fait remarquer de plus en plus que les dérives, qu'on ne les maîtrise pas, que les dangers terribles qu'Internet fait courir sont de plus en plus apparents. Difficile alors, quand on considère cet aspect des choses, d'affirmer que le salut vient de l'être humain. Même pour ce qu'on peut considérer comme vertu peut souligner l'égarement humain, la faillite humaine. Je pense à l'apôtre Pierre. il a suivi son maître Jésus. De plus, il manifeste des sentiments hautement louables par rapport à Jésus. Par exemple, lorsque Jésus annonce sa mort, alors la réaction de Pierre est protectrice. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Matthieu chapitre 16. Le seul problème, c'est que cette réaction pleine d'attention est en dehors du plan de Dieu. Et que cette influence pouvait avoir des conséquences dramatiques par rapport au salut que Jésus allait accomplir à travers sa mort sur la croix. Idem lorsque Jésus prend la place de l'esclave et lave les pieds de ses disciples. Alors Pierre s'offusque. « Toi, Seigneur, me laver les pieds ? Jamais !» Son sentiment d'humilité par rapport à son maître, là aussi, est remarquable. Mais il n'a pas compris qu'il y va de son salut derrière cette œuvre symbolique de purification. Quand Pierre ne se soumet pas à la parole de Jésus et qu'il ne se fie qu'à sa pensée, qu'à sa logique, même les plus beaux sentiments mènent à l'échec. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Mais l'être humain, alors un peu plus loin encore, s'endurcit dans son refus de dépendre de Dieu. Et il peut affirmer fièrement, sans Christ, on peut tout faire, pense-t-il. Si vous écartez Dieu de votre vie, au fur et à mesure que vous oubliez la loi de Dieu, alors ce sont les aspirations du fin fond de l'être humain qui prennent le dessus. Quand c'est le profit qui détermine ma ligne de conduite, alors je provoque des abus dans le travail et les employés deviennent le moyen de m'enrichir. Si je tire un profit de quelque chose, de quelque situation, pourquoi j'aurais des scrupules à polluer ? Je pollue, mais je m'en lave les mains en pensant qu'elles restent propres. Comme la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui empêche de prendre du plaisir avec la femme de mon prochain, surtout si elle-même le veut ? Quand je m'éloigne de Dieu, je suis capable de tout. Quel mal y a-t-il à se faire du bien ? Pense notre société. Qu'est-ce qui m'empêche de faire comme je veux ? Et cette liberté aveugle. Pourquoi tuer serait-il un crime quand quelqu'un devient gênant ? Les dérives sont à nos portes quand on est prêt à légiférer sur le droit à donner la mort à quelqu'un qui souffre trop, ou à me donner la mort parce que je le décide, parce que je trouve insupportable cette vie. 25 ans après le vote de la loi sur l'avortement, on entend l'argument revendicatif qui parle du droit à disposer de son corps comme on veut. C'est le principal argument pour couvrir les 220 000 avortements par an en France. Sans Christ, on peut tout faire en s'aveuglant. Le but devient vite quand on laisse les motivations humaines prendre le contrôle de la pensée. Le but devient vite contraire à ce qu'on recherche profondément. Et Jésus dit dans ce verset où il affirme « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » que ce sont les fruits qui sont révélateurs. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous nous souvenons où ce texte se situe, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et c'est le verset 5. Jean 15, verset 5. Les fruits, les conséquences de nos choix révèlent le bien fondé ou non. Un domaine précis, l'écrivain Solzhenitsyn pouvait affirmer « Si je devais résumer la cause profonde de cette révolution désastreuse qui a détruit 60 millions d'humains, je ne saurais donner qu'une explication. L'homme a oublié Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les fruits de la liberté sexuelle laissent une insatisfaction chronique, un bonheur superficiel et fragile. Sans accepter le pardon que Dieu offre grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, je ne peux pas être en paix avec Dieu. En pensant mériter le salut par mes propres œuvres, je n'arriverai jamais à être sûr d'être avec Dieu dans l'éternité. Sans Jésus-Christ, je ne peux me pardonner aucun péché. Sans lui, je ne peux vaincre les passions qui me dominent. Je ne peux pas remporter la victoire sur mon mauvais caractère ou sur mes angoisses. De chercher à devenir meilleur par mes propres efforts, à penser que je suis celui qui peut, j'en arrive soit à me satisfaire d'une vie d'échec à répétition, où je révise chaque fois à la baisse mes idéaux de bonheur, soit à me décourager, style ce que l'apôtre Paul affirme dans l'Épître aux Romains chapitre 7. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Malheureux que je suis. Par ses propres efforts, l'être humain ne peut échapper au jugement de Dieu, affirme la parole de Dieu. Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Romains chapitre 6. Voilà le fruit que nous récolterons sans Christ. Au contraire, dit l'apôtre Paul, en conclusion, après cette première moitié de ce verset, le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle opposition alors entre la vie sans Christ et la vie avec lui. Quelqu'un pouvait affirmer, sans Christ, je ne peux vivre. Avec lui, je ne peux mourir. Et l'apôtre Paul, de conclure cette grande partie des huit premiers chapitres de l'Épître aux Romains en disant « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors, oui, combien je peux constater dans ma vie personnelle que Dieu m'a conduit dans mes choix, combien il a permis que je ne m'égare pas avec lui. Le constat heureux que je fais n'est pas lié à une intelligence supérieure ou à des capacités hors normes, mais à l'action de Dieu. Je ne peux que le remercier pour ce qu'il a fait. Et cela, il a fait pour beaucoup d'entre nous. Alors, quelle est l'attitude que Dieu attend de nous? Je dirais d'abord qu'il s'agit de prendre conscience que nous dépendons de Dieu pour toutes nos capacités. Pilate croyait pouvoir affirmer devant Jésus qu'il était en train de condamner. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est du Seigneur, par lui et pour lui, que sont toutes choses, même si j'ai pu me lever ce matin. La première chose est d'accepter qu'il est la source de mes capacités, même physiques ou psychologiques, même si c'est moi qui fais mon jardin, c'est grâce à lui. Nous trouvons ce qui peut être un détail, pensons-nous, dans certains versets que nous avons lus. Cette expression, c'est dans l'union avec Christ, ou pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Ce qui fait la différence entre vivre sans Christ ou avec lui n'est pas la croyance de Dieu. N'oublions pas que le diable, c'est le plus grand des croyants. Mais c'est l'union avec lui qui fait toute la différence. Jésus insiste sur ce verbe « demeurer ». Combien de fois il le dit dans ces quelques versets du chapitre 15 de l'évangile de Jean. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Un sarment ne peut porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette action du Seigneur dans une vie est liée au fait de lui être attaché, d'être en union avec lui. C'est là que devrait être notre objectif, demeurer unis à Christ, et non pas le fait de chercher à agir par nous-mêmes, même à devenir meilleur. Alors Jésus nous dit aujourd'hui encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a que lui qui puisse faire cela. Il n'y a que lui qui puisse donner la paix, la certitude du salut, l'assurance de sa direction pour tous les domaines de la vie. Notre Dieu fait de grandes choses encore aujourd'hui pour ceux qui sont unis à lui.